Bonjour, bonjour, pardon. Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition en vous apprenant ou en vous rappelant que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur votre téléphone portable. Mais non, je rigole. Dans les grandes salles avec un écran et pas de pop-corn, s'il vous plaît. Je vous rappellerai, je ne le fais pas à chaque fois, que bien évidemment, le générique de notre émission est une musique de film, en l'espèce celle d'un film de Blake Edwards tourné en 1962. Ça s'appelle Pour l'éternité, Breakfast at Tiffany's. Audrey Byrne et George Peeples en sont les principaux interprètes. George Peeples, c'est mieux. George Peeples, c'est rigolo. Et la musique, elle est d'Henry Mancini, Moon River, un thème bien connu. Ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons justement rester aux États-Unis puisque nous allons évoquer la carrière d'un des monuments très méconnus de la musique de film américaine de cet âge d'or des années 40 à 60. Victor Young, c'est son nom, était né le 8 août 1900, juste au tournant du siècle, et aussi incroyable que cela paraisse quand on voit l'étendue de sa production, eh bien le pauvre homme mourut le 10 novembre 1956, soit à un âge vraiment peu avancé. Il a été originaire d'une famille juive et son père était déjà dans la partie puisqu'il faisait partie d'une troupe d'opéra. Le jeune Victor commence à apprendre le violon à l'âge de 6 ans et est même envoyé en Pologne pour étudier le violon avec son grand-père au conservatoire de Varsovie. Pardonnez-moi, je vais vous passer quand même quelques détails. Disons que dans les années 30, Victor Young arrive à Hollywood et il commence par arranger des chansons, notamment pour le populaire Bing Crosby, qui est une star incontestée aux États-Unis, mais fort peu connue chez nous. Et ensuite, de la chanson, eh bien, il passe à Broadway. Et de Broadway, évidemment, il passe à Hollywood. Et c'est à cela que nous allons consacrer l'émission de ce jour avec un premier extrait de la bande originale d'un grand classique tourné par Sam Wood en 1943. Une adaptation d'un roman d'Hemingway consacré à la guerre d'Espagne et plus particulièrement à l'engagement d'étrangers dans les brigades internationales chargées de lutter contre ce bon général Franco. Évidemment, quand je dis bon, je ne le pense pas. Le roman, il s'appelle « Pour qui sonne le glas ?»« For whom the bell tolls ?» Et le film, il s'appelle « Pareil ». Et dans les rôles principaux, on retrouve Gary Cooper et Ingrid Bergman. Je vous en dirai un petit peu plus, mais j'ai déjà été assez bavard. Oui, je sais, comme d'habitude. Allez, on écoute un extrait « Pour qui sonne le glas ?» dans 24 notes secondes.
Thank you.
Un extrait de la bande originale du film de Sagou, d'une musique de Victor Young, Pour qui sonne le glas, un film tourné en 1943, et une bonne idée du style musical de Victor Young, avec force cordes parfois un peu sirupeuses et un usage parfois, comment dire, un peu maladroit des musiques ethniques, comme on dit, de l'autre côté des États-Unis, dès qu'il s'agit de tourner ailleurs qu'aux États-Unis. Et même l'Espagne, c'est ethnique. En l'espèce, l'Espagne, évidemment, de la guerre entre les troupes de Franco et les brigades internationales, entre autres pour les brigades internationales, avec des étrangers et parmi eux des Américains, et notamment Gary Cooper qui interprétait le rôle de Robert Jordan. Hemingway, l'auteur du roman duquel le film est adapté, ne voulait que lui. Par contre, pour le rôle du personnage principal féminin, pardonnez-moi, eh bien, dans un premier temps, Sam Wood engagea une jeune actrice ballerine, Vera Zorina, qui fut renvoyée, la pauvre, au bout d'une semaine de tournage, ce qui fait qu'on n'en a plus jamais entendu parler, et qu'en lui et place, eh bien, on prit Ingrid Bergman, ce qui se révéla, hélas pour Vera, un très très bon choix, puisque le film fut un immense succès à l'écran et que le couple Gary Cooper-Ingrid Bergman fonctionna parfaitement. Par contre, même si le film fut nominé pratiquement pour tous les Oscars, eh bien, cette année-là, il y avait un autre film mythique déjà évoqué longuement dans 24 notes secondes qui, lui, les rafle à tous, en l'espèce le Casablanca de Michael Curtis, avec, là encore, Ingrid Bergman dans le rôle principal. Voilà, comme quoi, à quoi ça tient le succès à Hollywood, terre de stupre et de brutalité. Nous allons passer à un autre film, alors là, lui aussi très hollywoodien en diable, dirons-nous, un péplum comme dans les années 50, on en vit beaucoup fleurir, évidemment. Dans le genre, le roi ou presque des péplums, c'était Cecil B. DeMille qui avait commencé sa carrière au muet, c'est vous dire qu'en 1949, eh bien, il était déjà fort aguerri. Et d'ailleurs, au muet, il avait tourné quelques adaptations antiques, et notamment un Dix Commandements, qu'il retournera ensuite, évidemment, au parlant avec Charlton Heston. Mais en l'espèce, c'est une autre fable de la Bible. Une autre fable de la Bible que nous allons nous intéresser, en l'espèce, l'histoire de Samson et Dalila, que je n'ai certes pas besoin de vous rappeler. Dalila qui séduit Samson et qui lui coupe les cheveux, puisque le pauvre, sa virilité, elle est dans ses cheveux. Bah oui, il y a des métaphores. Parfois, dans la Bible, dans les rôles principaux, on retrouve Hedy Lamarr qu'on a revu récemment dans un documentaire qui nous a appris qu'elle avait aussi créé les ondes Wi-Fi ou quelque chose d'approchant. Bref, une femme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Et puis, à ses côtés, un acteur bien oublié dans le rôle de Samson, et qui pourtant fut dans les années 50 une star incontestée avec les grands virils de l'époque comme Robert Taylor, en l'espèce Victor Matcher. Alors, Victor Matcher, déjà un nom prédestiné, qui interprétait donc le rôle de Samson aux côtés d'Hedy Lamarr. Derrière eux, si je puis dire, eh bien, il y avait des seconds rôles plutôt bienvenus, notamment l'infâme George Sanders, infâme sur l'écran, puisqu'il avait un personnage méchant, et dans la vie, puisque l'homme fut un actif dénonciateur pendant le Cartisme. Et puis il y avait aussi Angela Lansbury, mais si vous voyez qui c'est celle qui jouait le rôle principal dans ce feuilleton pour mes mères qui s'appelait Arabesque. Angela Lansbury à l'époque, toute jeune et plutôt mignonne ma foi. Allez, je vous en dirai peut-être un peu plus après, mais on écoute un extrait de cette bande originale, Samson et Dalila de Victor Young dans 24 notes.
Thank you.
Eh ben, là encore, il y a de la musique ethnique où je ne m'y connais pas. Un extrait de la bande originale de Samson et Dalila, un film de Cécile B. DeMille tourné en 1949. Une musique de Victor Young. Victor Young qui, il faut le noter, fut... En tout cas, était au moment où ma petite fiche a été rédigée, je vous rappelle les petites fiches, le recordman du nombre de nominations aux Oscars de la meilleure musique de film, puisqu'il en obtint 22. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, s'il obtint 22 nominations, il n'eut jamais l'Oscar de son vivant. Et notamment, il fut nominé pour Samson et Dalila, mais il n'obtint l'Oscar qu'en 1956, soit à titre posthume, vous l'avez peut-être déjà noté comme je l'ai évoqué tout à l'heure, pour un film plutôt bienvenu, mais que je pense nous n'aurons pas le temps d'évoquer musicalement. Le Tour du Monde en 80 jours, et oui, c'était une adaptation de Jules Verne. On va être peut-être dans un film beaucoup plus intéressant et proche du chef-d'œuvre, il faut bien le reconnaître, puisque Victor Young, dans sa longue carrière, côtoya pratiquement tous les géants cinématographiques d'Hollywood, et bien évidemment, il côtoya aussi John Ford, comment faire autrement quand on est à Hollywood, pour lequel il composa notamment la musique de Rio Grande, tournée en 1950 avec John Wayne et Maureen O'Hara, mais surtout, surtout, car à tout point de vue, c'est un film qui est cher au cœur de John Ford, de Maureen O'Hara, de John Wayne, de tous les Irlandais des États-Unis, ce qui représente à peu près 100 millions de personnes, donc c'est que j'exagère un peu. Un film, en tout cas, qui permettait à Ford de retourner vers ses racines irlandaises, comme beaucoup d'immigrés américains, et un film qui s'appelait, j'y arrive, L'Homme Tranquille, The Quiet Man, tourné en 1952. Un scénario absolument impeccable de Frank Nugent. Des fois, il faut citer ces gens-là. John Wayne et Maureen O'Hara, à nouveau dans les rôles principaux et à leur côté, alors vraiment... tous les acteurs second rôle qui faisaient partie de l'équipe fétiche de John Ford. Si vous regardez bien, ces gars-là sont pratiquement dans tous ses films, parfois dans des rôles très petits, mais généralement dans tous ses films, et comme la plupart, ils sont aussi irlandais d'origine. Il y a Barry Fitzgerald, il y a Ward Bond, ce cher Ward Bond, et Victor McLagan, qui a juste eu un tort, c'est celui d'avoir un fils qui a réalisé de fort mauvais westerns. Bref, un film extrêmement drôle, extrêmement enlevé, une évocation nostalgique, sans doute peu réaliste de l'Irlande des années 50, mais en tout cas une grande, grande réussite, et puis aussi une très, très belle musique de Victor Young, dont nous allons écouter, oui j'y viens, un extrait, The Quiet Man, 24 notes secondes, Victor Young. « Voilà un extrait tout en nostalgie de la bande originale de L'Homme Tranquille, The Quiet Man, un film de John Ford, alias, je prends mon souffle, Sean Aloysius O'Fearna. Oui, ça fait plus irlandais que John Ford. Effectivement, donc, L'Homme Tranquille, un hymne à l'Irlande des années 50, avec parfois quelques petites touches un peu aigres sur le conservatisme de certaines vallées. L'Irlande n'est peut-être pas le pays le plus progressiste de toute l'Europe, mais en tout cas, le film, lui, était un pur chef-d'œuvre, il faut bien le dire, d'une grande drôlerie, d'une grande tendresse. Et où, il faut aussi le dire, Maureen O'Hara, dans le rôle de Mary-Kate Danaher, volait tout simplement la vedette à John Wayne, et que c'est bien fait, parce qu'à vrai dire, nous, on préfère les filles à John Wayne. Aussi étonnant que cela puisse être dit. Victor Young était à la baguette. Victor Young, que nous allons retrouver dans un autre genre que John Ford, ô combien a illustré, mais en l'espèce, ce n'était pas lui, réalisateur, le western, avec un extrait de la bande originale d'un film de George Stevens tourné en 1952 avec Alan Ladd et Gene Arthur dans les rôles principaux. Alors, en anglais, ça s'appelle Shane, c'est le nom du personnage principal, enfin le prénom, il n'a pas de nom dans l'histoire. Et en français, ça s'appelle L'Homme des Vallées Perdues. Bonjour, je voudrais une place pour Shane. Ah ben non, on ne le passe pas, Shane. Eh ben alors, peut-être le retour de la malédiction, de la vengeance de l'Homme des Vallées Perdues. Une place, oui, voilà. Des fois, la traduction, ben, elle n'est pas forcément mieux que le début, car L'Homme des Vallées Perdues, on ne voit pas trop, tandis que Shane, tout de suite, c'est la classe. Dans les années 50, eh bien, on appelait ça le sur-western, c'est-à-dire le western intellectualisé, avec de vrais morceaux de polémique et d'histoire et d'idéologie dedans. Et Alan Ladd était certainement la personne la mieux à même d'incarner ce sur-western, puisqu'en fait, il faut bien le dire, lui-même le reconnaissait, l'acteur est absolument inexpressif. Sur le visage d'Alan Ladd, un peu comme sur celui d'Alain Delon, vous pouvez mettre absolument tout et n'importe quoi, lui ne bougera pas d'un cil. Et en tout cas, c'est un genre qui a plu, puisque Alan Ladd, avant de tourner Shane en 1952, eh bien, avait déjà tourné dans des dizaines de westerns, de la même manière que Victor Young, lui aussi, avait composé pour beaucoup de westerns. On va conclure d'ailleurs sur l'un des plus beaux d'entre eux, mais en attendant, on écoute un extrait de cette bande originale, Shane, dans 24 notes secondes. Ce n'est certes pas la musique d'Elmer Bernstein. Pour les sept mercenaires, c'est beaucoup moins bondissant, beaucoup plus nostalgique, mais aussi très Americana, très néo-western, presque pourrait-on dire. Un extrait de la bande originale signée Victor Young, bien sûr, notre héros de ce jour, de L'Homme des Vallées Perdues, un film de George Stevens tourné en 1952, à vrai dire, le seul western tourné par George Stevens, qui fut notamment le réalisateur de Géant, avec James Dean, voilà, je cherchais le nom, honte à moi, et donc George Stevens, qui est considéré par les Américains, un peu moins de ce côté-ci de l'Atlantique, comme un des très grands noms du cinéma américain. On a cité Ford tout à l'heure, on pourrait aussi citer Cukor, Preminger, Wyler. Eh bien, pour les Américains, moins pour nous, je l'ai déjà dit, George Stevens est de cette trempe, et donc il avait trouvé avec Victor Young, certes, le compositeur idéal pour son western psychophilosophique. Et on va conclure bien justement cette émission par la musique d'un western. On aurait pu évoquer un autre western psychologique, La Flèche Brisée, pardonnez-moi, Run of the Arrow de Del Mulder, tourné en 1957 et qui est sorti à titre posthume pour ce qui était de Victor Young. On aurait pu aussi citer, alors là c'était pas un western mais un film de 4 et d'épée, Le Bondissant Scaramouche, tourné en 1952 par George Sidney. Mais on va terminer avec un des grands, grands chefs-d'œuvre du cinéma tout court. Un film de Nicolas Ray tourné en 1954, ça s'appelait tout simplement Johnny Guitar, l'histoire de Sterling Hayden alias Johnny Guitar, parce que oui, il a une guitare qui revient là où il a été dans le passé, où il retrouve son amour, en l'espèce John Crawford, la tragique John Crawford. Évidemment, tout ça se passera assez mal, d'autant plus que en face de John Crawford, il y a une autre femme, évidemment, comme toujours, en l'espèce Mercedes McCambridge, une actrice, à vrai dire, plus connue pour avoir été la voix de l'exorciste. En effet, c'était elle qui disait toutes les insanités que prononçait, soi-disant, Linda Blair dans le film de William Friedkin, que pour ce rôle, un film absolument magnifique, tourné en trucolore, un procédé de photographie en couleur très improbable et qui donne des contrastes absolument saisissants et qui donne un air tragique et de tragédie au film. Aux côtés de John Crawford, Sterling Hayden et Mercedes McCambridge, eh bien, il y a là encore tous les seconds rôles, toutes les trognes du cinéma américain qu'on aime. À nouveau ce cher Ward Bond, mais il y a aussi Ernest Borgnine, il y a aussi John Carradine et bien d'autres. Pour un film qui est un petit budget, en fait, qui fut tourné comme un petit budget, un film admiré notamment par Jean-Luc Godard et sur lequel nous allons conclure avec une musique de Victor Young dans 24 notes secondes.
Play the guitar, play it again, my Johnny. Maybe you're cold, but you're so warm inside. I was always a fool for my Johnny, for the one they call Johnny Guitar. Play it again, Johnny Guitar. What if you go? What if you stay? I love you. What if you're cruel? You can be kind, I know.
Voilà, 24 secondes, c'est close pour today. À bientôt, si tu vois pas, au revoir.
Johnny Guitar.